Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon jeudi. J'espère que tout se passe bien de votre côté, Marianne Paquette au micro. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Eh bien, l'automne est bien installé chez nous et pour plusieurs, c'est la saison préférée. Bon, pour bien des raisons, bien sûr. Et peut-être parce que ici, on a la chance de pouvoir admirer de superbes paysages colorés. Et pour en profiter un maximum, la randonnée en montagne, la randonnée pédestre, c'est idéal. C'est un exercice qui a plusieurs bienfaits et qui a plusieurs avantages aussi. C'est pas trop cher, des montagnes ou des pistes de randonnée, là, il y en a un petit peu partout au Québec. Et ça peut se faire en famille, ça peut se faire entre amis, ça peut même se faire seul, la randonnée pédestre. En deuxième partie d'émission, Pascal Boulay-Coton, lui de la Fédération québécoise de la marche, sera là pour nous donner des petits trucs afin de bien se préparer à la randonnée pédestre. Et puis, si vous n'avez pas peur des aiguilles, vous avez peut-être déjà bénéficié de soins d'acupuncture, qui est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise et qui est attachez-vous bien, là, vieille d'environ 2500 ans. C'est de plus en plus utilisé, pratiqué au Québec depuis à peu près 30-40 ans par des gens qui, entre autres, vont rechercher des alternatives à la médecine occidentale. Il y a un ordre des acupuncteurs au Québec qui compte 800 acupuncteurs. C'est quand même beaucoup. Et ces acupuncteurs, bien, vous pouvez les trouver plus souvent qu'autrement dans des cliniques privées. Donc, on peut saisir cliniques privées qui amènent un certain coût pour payer cette pratique-là, cette consultation-là. Et ce n'est pas toujours accessible à tous les budgets. On peut compter à peu près 80 $ là, pour une visite chez l'acupuncteur. Clément Courteau, qui est lui-même acupuncteur, a créé une clinique qui s'appelle AcuPop et qui souhaite rendre l'acupuncture accessible à tous. On lui parle à l'instant. Bonjour Clément.
Allô.
Merci d'être là, Clément Courteau, acupuncteur.
Oui, ça fait plaisir.
Et vous êtes tout jeune, Clément. Ça fait longtemps que vous pratiquez l'acupuncture.
Depuis 2012. Ça s'en vient, ça s'en vient.
Ça fait pas 2500 ans, là.
Pas tout à fait.
Clément, la création d'AcuPop, j'ai l'impression que ça vient d'un souhait de recréer un petit peu la pratique ancestrale. Parce qu'en Chine, le souhait, le premier souhait, du moins j'imagine, c'était de pouvoir traiter le plus de gens possible.
Oui, en fait, l'aiguille est une technologie qui permet justement de traiter plusieurs patients simultanément. Donc, si on utilise l'aiguille pour dans les traitements médicaux, c'est en grande partie pour automatiser le traitement. C'est comme si on avait plusieurs massages qui s'opéraient à la fois par la même personne grâce à l'aiguille. Puis même encore aujourd'hui, dans les hôpitaux chinois, c'est comme ça que l'acupuncture fonctionne. Ça coûte à peu près rien. Et puis, il y a une grande salle où il y a plusieurs patients, patientes qui sont là. Un acupuncteur peut voir des centaines de gens dans sa journée. Donc, mm-hmm. le coût unitaire des traitements diminue considérablement.
Oui. Et aussi, bon, il y a des centaines d'années, la tâche d'un acupuncteur, c'était de s'occuper de tout un village, là.
Oui, on peut dire que l'acupuncture permettait à une personne de prendre soin de la santé de toute la communauté autour de lui ou d'elle.
Oui. Et vous, vous avez eu envie de créer avec AcuPop l'acupuncture populaire. C'est quoi ça?
Oui, bien, l'acupuncture populaire, c'est une méthode d'organisation en clinique qui, justement, permet une grande accessibilité aux soins par la multiplication des patients traités en même temps. En organisant une salle de travail, il faut quand même que ce soit fait au quart de tour, mais en organisant bien les lieux, je suis capable, moi, je me limite à 4 personnes là, mais je suis capable de voir plusieurs personnes en même temps, donc de diminuer les coûts.
Et comment ça s'articule? Parce que, je le disais tout à l'heure, la plupart des acupuncteurs au Québec pratiquent en clinique privée, donc on peut s'imaginer, on rencontre notre acupuncteur, on est dans une salle seule. Là, chez AcuPop, il y a plusieurs personnes, comme vous le disiez, 4 par salle, c'est ça?
D'une part, on me rencontre seul à seul, parce que c'est quand même confidentiel, puis c'est un service de santé, on veut pas que tout le monde sache tout ce qu'on a.
Ouais.
Et puis, la salle de traitement seulement est séparée en cubicules, donc on est seul dans un cubicule, c'est pas comme s'il y avait une salle avec 25 lits où tout le monde serait à la vue de tout le monde. Donc, ça reste des traitements individualisés, seulement l'espace me permet de mettre des cubicules. Donc, mm-hmm. c'est la seule différence, c'est qu'on n'a pas une salle avec des murs pleins à soi.
Et ça vous permet d'offrir des tarifs qui sont quand même assez concurrentiels.
Oui, ça me permet de baisser mes prix considérablement. Le but n'étant pas la concurrence, le but étant l'accessibilité d'abord.
Ouais. Ça, c'est important, je pense, de le rappeler. Hein.
Oui, effectivement, parce que moi, je suis jeune, comme vous le dites, et puis il y a beaucoup de gens autour de moi, des jeunes, des étudiants, même des gens qui commencent dans leur carrière, qui ne peuvent pas se payer mes services, qui ne pouvaient pas se payer mes services, puis c'était assez perturbant, là. Donc, j'ai mis ça sur pied, en gros, pour pouvoir voir des gens, surtout, qui me ressemblaient.
Mm-hmm. Donc, des gens qui vous ressemblent, des gens aussi, j'imagine, qui n'ont jamais eu accès avant à l'acupuncture. Donc, il y a un travail aussi de vulgarisation un petit peu des services. Et j'imagine que vous avez aussi des gens à rassurer parce qu'une aiguille, ça peut faire peur d'entrée de jeu.
Oui, bien, rassurer, ça, c'est un gros de ma tâche généralement, mais c'est vrai que depuis que j'ai mis ce service-là sur pied, en fait, au tout début, je recevais des appels qui me demandaient si vraiment j'étais diplôme et combien d'expérience est-ce que j'avais. Puis, il fallait que j'explique aux gens que non, monsieur, madame, j'ai un revenu, tout va bien. Là, je leur expliquais que je voyais plusieurs personnes, puis donc ça enlevait le soupçon. Mais il y avait un soupçon au début. Sinon, bien, rassurer les patients, c'est toujours... Ouais. Je ne le fais pas plus maintenant que je le faisais.
Ça
quand
fait partie de la tâche d'un acupuncteur. Comment l'Ordre perçoit ce projet-là?
L'Ordre n'est pas opposé à différents modèles d'affaires tant que je reste dans les standards de pratique. Par exemple, je ne pourrais pas avoir une grande salle où ce que tout le monde se voit parce qu'ici au Québec, on a des standards de pratique particuliers. Puis moi, j'y tiens aussi. Tant que je préserve une qualité, une de mes grandes... considération, c'était de garder toute la qualité des traitements que j'avais lorsque je faisais une pratique privée. Donc, si tout est cachère, tout fonctionne, ouais. Pas de problème.
Les gens qui viennent vous voir, est-ce que, bon, vous le disiez, des étudiants, des gens qui s'intéressent à l'acupuncture, mais qui ne peuvent pas bénéficier de ces soins-là, mais bon, il y a des gens aussi qui sont dans des situations peut-être un petit peu plus précaires du point de vue économique.
Oui, effectivement, c'était le but, là. Le but, c'était que des gens qui souffrent, mais qui n'ont pas les moyens de sortir de leur souffrance puissent trouver une place où il y aurait un soulagement, sinon une guérison. Donc, effectivement, je vois de plus en plus de gens de tous horizons sociaux, là, et puis ça me fait extrêmement plaisir parce que souvent, la différence que je fais est moyenne, sinon majeure, dans la vie de ces personnes-là.
L'acupuncture, ça peut apporter quel genre de bienfaits?
C'est très, très, très large. Mais si on veut garder si on veut rester dans la zone sécuritaire, le stress est un premier. Tout ce que le traitement fait, d'abord, c'est traiter le stress. Ensuite, on va vers les douleurs. L'acupuncture, la meilleure chose que ça fait, c'est traiter les douleurs.
Mm-hmm.
Autour de ça, il y a tout ce qui est problèmes digestifs, insomnie, anxiété. En fait, c'est une médecine très générale. Mais du stress vers les douleurs, on est assuré à peu près d'un résultat.
Clément, vous accompagnez aussi des gens qui ont des soucis, des problèmes de dépendance, de toxicomanie.
Oui, c'est la deuxième volet de ma pratique. En fait, je travaille au Centre de recherche et d'aide pour narcomanes, donc le CRAN. Et puis là, on a un programme où on offre des services d'acupuncture de façon gratuite aux gens qui sont suivis par le centre.
Mm-hmm.
Donc, c'est surtout pour l'adoucevrage, la réduction des cravings, de la dépendance. Et puis, on met sur pied en ce moment un volet de gestion et traitement des douleurs chroniques pour gens qui ont des problèmes donc, de dépendance aux opiacés. Des fois, ce n'est pas facile de se trouver une option de traitement pour traiter la douleur dans ce temps-là.
Est-ce que les gens qui nous écoutent, qui se disent « moi, je pense que ça pourrait m'aider dans mon quotidien, est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer chez Acupop ou c'est une pratique que vous réservez vraiment qui est plus en parallèle d'Acupop?
C'est surtout chez Acupop l'entièreté de ma pratique privée, personnelle, est chez Acupop. Donc, c'est pas mal le seul endroit public où on peut me rencontrer parce qu'au CRAN, c'est vraiment parallèle à l'interne dans
d'accord.
le centre.
Est-ce qu'il y a des contre-indications, c'est-à-dire des gens à qui vous diriez « Oh, l'acupuncture, c'est peut-être pas favorable pour vous.
» La peur des aiguilles est un problème.
Oui, c'est
des fois,
vrai.
Ça peut vraiment
ça
mettre...
Surmonte,
une...
ça.
Oui, ça, on s'habitue.
Oui.
Au pire, ça prend 4 traitements, puis on s'habitue, puis ça va marcher. Sinon, tout ce qui est anticoagulant, immunosuppression, souvent, quand il y a des cas qui ont l'air un peu plus compliqués ou suspects, je ne vais pas traiter tout de suite, puis je vais envoyer voir un médecin généraliste ou un spécialiste pour voir quelles conditions sous-jacentes il y a avant que je puisse faire un traitement. Donc, sinon des grossesses à risque, des choses comme ça, mais il y a généralement très peu. C'est une médecine assez sécuritaire, l'acupuncture, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer à cause des aiguilles, là.
Et maintenant, on le sait, je pense que ça se fait du côté de Saint-Luc et de l'hôpital La Salle. Il y a des acupuncteurs qui sont là pour accompagner les femmes qui accouchent.
Oui, en fait, j'ai commencé ma pratique comme ça, moi, à l'hôpital La Salle.
Ah, oui.
Je faisais les accouchements sur le plancher. Là, on a un service qui s'appelle les acupuncteurs associés en gynécologie et accouchement, AAGA. Et puis, le but, c'est d'offrir un service de garde pour les patientes qu'on suit en clinique et de leur garantir un acupuncteur lors de leur accouchement. Par contre, ça reste un service privé, donc ce n'est pas quelque chose qui est défrayé par l'hôpital.
Clément, est-ce que dans cette pratique qui est l'acupuncture populaire, vous êtes confronté à des difficultés ou encore est-ce que ça peut modifier votre façon de pratiquer?
Ma façon de pratiquer était d'emblée très adapté à l'acupuncture populaire parce que j'ai hérité de la clinique d'un médecin chinois qui m'a montré à pratiquer à la chinoise, donc de façon plutôt efficace. Et puis, ce qui me permet de voir dans le fond 4 patients à l'heure en jasant avec le monde puis en ayant beaucoup de plaisir par ailleurs sans trop de fatigue. La difficulté, en fait, c'est une difficulté de volume étant donné que c'est un service qui est très peu coûteux. On se base sur un grand volume. Fait que ça, avant d'avoir assez de gens pour que le service soit viable, ça a pris un certain temps. Maintenant, ça va. On a une bonne base de clientèle. Mais ça prend toujours une sorte d'effort de la part de clientèle pour publiciser nos services, pour que nous, on n'ait pas besoin de mettre de l'argent dans la publicité que ça fasse grimper le prix du service.
Ouais.
C'est ça la plus grande tâche.
Et ça, parce qu'il faut le dire, vous êtes un petit peu ici grâce au bonhomme à lunettes. C'est par lui que j'ai entendu parler de vous, Clément Courtois, Philippe. Mm-hmm. Donc, en fait, Acupop s'inspire un petit peu du bonhomme à lunettes, à quelque part.
Bien, quand j'ai développé Acupop, je m'inspirais surtout des cliniques chinoises. Cependant, quand j'ai rencontré Philippe et que j'ai connu son service, je me suis rendu compte à quel point on avait la même volonté de départ puis à quel point on s'en allait dans la même direction. Donc, c'est un peu parallèlement qu'on s'est développé, mais effectivement, on a vraiment des atomes crochus là, au niveau de nos objectifs d'accessibilité.
Et chez Acupop, il y a des acupuncteurs, mais il y a aussi d'autres professionnels de la santé.
Oui, bien, Acupop, vous savez, on est dans un grand local qui s'appelle les Portes Oranges, où il y a aussi le bonhomme à lunettes, une optométriste, Gabrielle Lapointe, Optopop. Et puis, moi aussi j'inspire du monde. Et puis, on a aussi des services de massothérapie, physiothérapie, ostéopathie, sexologie et relations d'aide. Donc, c'est beaucoup de thérapeutes qui s'assemblent pour offrir des services et avec toute la même souci d'accessibilité. Bon, on ne fait pas tout le miracle que je fais avec l'acupuncture pour descendre les prix autant que je le fais, mais généralement, tout le monde qui est là a un souci puis travaille en vue de l'accessibilité aux soins.
Mais peut-être parce que ça se prête un petit peu moins, je veux dire, une consultation en sexothérapie, ben on n'a pas envie d'être 4-5 dans la même salle,
effectivement,
évidemment.
C'est plus difficile. C'est pour ça que la particularité de l'acupuncture permet vraiment une pratique sociale. Les autres médecines ont un coût de base qui va demeurer élevé. Par ailleurs, c'est des services de qualité, là, mais l'acupuncture a vraiment une position stratégique.
Vous avez abordé, Clément, ce projet qui s'appelle les Portes Oranges. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est, en fait, ça se base sur la réunion de tous ces professionnels-là qui ont envie d'offrir une accessibilité en soins?
Oui, bien, le but, c'est de rassembler des personnes qui œuvrent dans ce qu'on appelle les médecines alternatives. Elles sont alternatives pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas offertes dans le système de santé publique.
Ouais.
C'est pas parce qu'on travaille dans le privé qu'on est des gens qui sont à l'argent. Donc, ce qu'on veut, c'est rendre nos services accessibles. Mais comment faire si tout le monde est séparé dans son local? On a des frais de location, tout le monde. Donc, en s'assemblant, on permet de diminuer nos coûts fixes puis d'offrir des services un peu moins chers au bassin de clientèle qu'on génère nécessairement par notre volonté.
L'union fait la force, quoi.
Exact.
Ouais. En même temps, ce qu'il y a de bien, j'imagine, c'est cette réunion aussi entre vous, de pouvoir échanger sur les savoirs, sur les façons de faire, sur vos différentes pratiques également.
Oui, c'est extrêmement riche comme expérience. Et puis, la solitude qu'on vit comme travailleur autonome ou comme thérapeute dans un local est complètement brisée là, par cette association-là.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un souhait, que ce soit avec Acupop ou les Portes Oranges, de faire un peu une transmission du savoir? C'est-à-dire que souvent, dans notre société, il y a les praticiens, les soignants, et ceux qui ont besoin de ces soins-là sont un petit peu captifs. Je sais qu'en acupuncture, il y a ce souhait-là, probablement parce qu'il y a un maître souvent. Vous parliez tout à l'heure là, de votre maître chinois, mais de transmettre un petit peu le savoir pour que le patient devienne plus autonome dans sa santé.
Oui, enfin, on veut que les gens soient outillés le plus possible. En fait, vu qu'on voit beaucoup de gens en même temps, moi, le plus les gens vont être outillés, le mieux mon travail va se faire, puis moins ils auront besoin de consulter. Donc, le but, c'est vraiment de détruire toute la vision mystique là, du thérapeute ou du médecin pour que le patient comprenne son corps, comprenne quand consulter, quand aller juste prendre une marche au lieu de consulter.
Oui, ou de prendre des médicaments. Aussi.
Effectivement, ouais, ouais. Qu'il soit plus outillé pour prendre soin de ses problèmes.
Oui, et c'est important de dire, Clément, je pense que l'acupuncture, c'est une médecine qui est préventive. Donc, votre souhait, c'est que votre patient vienne et soit en santé presque là, quand vous le rencontrez.
Oui, bien, on prend des problèmes qui se développent à toutes sortes de niveaux, mais c'est sûr que plus proche on est de l'état d'équilibre, plus ça va être facile de ramener l'équilibre. Cependant, il arrive des choses comme des accidents qui ne nous permettent pas nécessairement de consulter en prévention. À ce moment-là, l'acupuncture va faire un bon travail de réhabilitation.
Oui, et c'est important de dire que l'acupuncture, ça fait pas mal.
Ça fait pas très mal. Il y a moyen qu'on sente à peu près rien, même que c'est agréable, la petite sensation de buzz, là, que j'appelle, qui ressemble un peu à celle de l'hypnose. Cependant, il y a certains traitements qui vont être un petit peu plus rock'n'roll.
Ouais, et les enfants sont les bienvenus?
Les enfants sont les bienvenus. En fait, tout le monde est le bienvenu. Je change d'approche selon la clientèle. En fait, personnes âgées ont besoin de plus de réconfort. Les enfants ont besoin que ça bouge un peu plus. Donc, on s'adapte un peu à tout le monde.
Donc, www.acupop-montréal.com pour en savoir davantage. Vous êtes là du lundi au vendredi, Clément?
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous, si possible.
Oui, c'est ça. Et je trouvais que c'était assez convivial parce qu'on peut aller directement sur votre site pour prendre un rendez-vous avec vous.
Exact.
L'horaire est affiché, donc pas trop compliqué. Pour les gens qui sont un petit peu moins à l'aise avec le web, est-ce que c'est possible de vous appeler?
Ben oui, au 514-503-3700.
Bon, alors, il n'y a plus moyen, de passer à côté d'Acupop, surtout qu'on le rappelle, vos services sont 20 $, c'est ça, sur reçu?
Oui, 20 $ avec reçu d'assurance, bien entendu.
Donc, tout à l'heure, Clément, vous disiez, ben peut-être que des fois, j'encourage mes patients, mes clients à aller prendre une marche au lieu d'avoir des soins ou de prendre des cachets.
Bien sûr.
On va s'intéresser avec Pascal à comment prendre une marche et de vraiment que ça soit très, très avantageux pour nous. Clément Courteau, acupuncteur, merci beaucoup.
Merci à toi.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Pascal Boulet-Coton, merci d'être là. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez du côté de la Fédération québécoise de la marche et vous êtes là pour nous livrer des conseils afin de bien se préparer à la randonnée pédestre, la randonnée en montagne également. Et je pense qu'au Québec, on n'a pas beaucoup d'excuses là, pour ne pas sortir pendant l'automne le bout du nez parce que des montagnes, des sentiers de randonnée, là, il y en a partout, c'est très, très accessible.
Oui, exactement. En fait, souvent, les gens ont tendance à négliger la quantité de sentiers pédestres qu'on peut avoir au Québec. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller aux États-Unis, par exemple, aller voir les montagnes les plus connues. On parle du Mont Katahdin, des choses comme ça. Mais au Québec, on a vraiment, vraiment beaucoup de sentiers. On a environ, je dirais, 12 000 km de sentiers pédestres praticables. Donc, puis en plus, ces temps-ci, avec les couleurs, pardon, c'est vraiment intéressant. On est dans la période exactement pour aller faire de la randonnée, voir toutes les belles couleurs. Avec le beau temps qu'on a eu cette année, on est un petit peu plus tard que d'habitude au niveau des couleurs. Donc, je vous dirais qu'il nous reste peut-être deux semaines encore pour aller en profiter. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Là, si vous ne voulez pas manquer votre coup cette année, de sortir peut-être en fin de semaine, on a une belle fin de semaine de trois jours qui s'en vient. Donc, c'est vraiment le moment idéal là, pour aller jouer dehors, comme on dit.
Et souvent, pour bien en profiter, il faut être bien préparé, Pascal. Et ça démarre dès le départ. Là. Avant de partir, comment on peut bien se préparer à notre randonnée?
Je dirais que le problème souvent que les gens ont, c'est qu'ils ne planifient pas assez leur randonnée. Donc, on décide le matin où on va, on fait de la randonnée, on ne sait pas trop où aller, on se dépêche, on prépare nos choses un peu à la hâte, puis on oublie des choses. Donc, ce qui est important, c'est de bien planifier notre randonnée. Une journée, deux jours, trois jours à l'avance s'il le faut. C'est sûr qu'on va toujours s'adapter aussi en fonction de la longueur de la randonnée. Une randonnée qui est plus longue, on va préparer plus longtemps d'avance. Une randonnée plus courte, on va y aller un petit peu moins d'avance. Une fois rendu là, il faut choisir le sentier. Il faut trouver une belle longueur, un dénivelé, une durée qui vont vraiment répondre à nos besoins puis répondre à notre capacité aussi.
Aussi, le niveau de difficulté est à considérer.
Exact, exact. Souvent, les gens vont partir en randonnée, vont dire « je m'en vais marcher, ça ne sera pas tellement difficile », mais on voit que dans les sentiers, quand on a beaucoup de dénivelé, les sentiers ne sont pas tous tapés. Des fois, ça va être plus rocailleux, ça va être plus difficile pour les chevilles, entre autres, pour le cardio. Donc, c'est important d'y aller progressivement, de commencer peut-être avec des sentiers qui sont un petit peu plus faciles, quitte à augmenter de difficultés. Et souvent, au Québec, ce qu'on a, c'est qu'on a des réseaux de sentiers. Ça vous permet de partir, de faire un sentier, par exemple, un peu plus court. Et une fois que vous avez fait votre sentier, si vous avez encore de l'énergie, bien, vous pouvez partir dans un autre sentier, dans le même réseau. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Ensuite, quand on se prépare, bien, c'est sûr qu'il faut toujours considérer la température, la météo et toujours bien prévoir les choses. C'est pas à cause qu'on part le matin, qu'il pleut pas, qu'il peut pas avoir une petite averse soudaine l'après-midi. Donc, on dit toujours de bien préparer son sac, de bien préparer tout son équipement, de préparer une petite veste de plus, des fois d'amener une deuxième paire de bas si jamais on a tendance à avoir chaud aux pieds, pardon. Ça peut être important d'amener une deuxième paire de bas pour éviter les ampoules.
Oui.
Donc, en planifiant sa randonnée à l'avance, généralement, on oublie moins de choses. Donc, on est capable de vivre une expérience plus agréable parce qu'on n'a pas de souci de dire « j'ai oublié telle affaire, j'ai oublié mes bâtons de marche, j'ai pas les bonnes paires de bas. »
Les chaussures aussi, ça, c'est assez important. Un bon choix dans les chaussures.
Ben oui, en fait, c'est sûr que la randonnée, ça se pratique soit en bottes de marche, soit en chaussures. Ça va dépendre vraiment du sentier. Et là, je dirais que dans les chaussures et dans les bottes, il n'y a pas de produit qui fait trop, mais il y a des produits qui ne font pas assez.
Mm-hmm.
Je m'explique. Vous pouvez avoir une grosse botte de randonnée, de longue randonnée, super rigide. Vous pouvez marcher en ville avec ça, il n'y a pas de problème. Ça ne sera peut-être pas la randonnée la plus agréable, mais il n'y a pas de problème, c'est faisable. Tandis que si vous allez dans une trop petite chaussure et vous partez dans un sentier qui est très accidenté, là, à ce moment-là, ça va être vraiment, vraiment difficile pour vous. Vous avez plus de risques de blessures. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment être sûr d'avoir la bonne chaussure, la bonne botte. Et là, on parle vraiment de chaussures de marche. Donc, on ne parle pas de souliers Adidas, de souliers de course, des choses comme ça. On parle vraiment d'une chaussure qui va avoir une bonne stabilité, qui va éviter également qu'on sente toutes les roches en dessous de nos pieds, qui va vraiment nous aider au niveau du confort. Il n'y a pas de meilleur moyen pour ça que d'aller vraiment dans les magasins de plein air pour aller chercher une chaussure qui va être vraiment appropriée. Moi, je dis toujours, pour la chaussure, il y en a de tous les goûts, de toutes les couleurs. Ce qui est important, avant tout, c'est le confort.
Oui.
Vous avez beau avoir la chaussure qui vaut le plus cher puis qui est la plus belle, si ça ne fait pas à votre pied, vous allez partir en randonnée, après deux minutes, vous allez avoir mal au pied. Puis si vous partez sur une randonnée de 4 heures, quand ça fait mal après 5 minutes, la randonnée est longue.
Oui, puis on n'a pas envie après, le week-end prochain, d'y retourner. Je le disais tout à l'heure, Pascal, la randonnée pédestre ou en montagne, c'est quelque chose qui est agréable à faire en famille.
Oui.
Pour les enfants, ça se fait bien, j'imagine, mais il faut pouvoir les préparer.
Exactement. En fait, ça se fait très bien avec les enfants. La seule chose, c'est qu'il faut adapter notre randonnée. Quand on dit de faire de la randonnée avec des enfants, c'est sûr que vous allez toujours prendre en considération que ça va être un petit peu plus long.
Mm-hmm.
De raccourcir la randonnée, ça peut être intéressant. L'autre chose aussi, c'est que les enfants n'auront pas nécessairement tous le goût dès le départ de juste aller pour se promener dans le bois pour se promener dans le bois. Donc, ça peut être intéressant de penser à des alternatives. On pensait des fois d'amener des petites collations. Des fois, un petit quelque chose qu'on n'a pas le droit à la maison pour justement dans les moments de fatigue ou que ça commence à être long, mais là, on sort la collation. Des fois aussi, ça peut être intéressant d'aller voir. On a un site répertoire, le site baliseqc.ca, dans lequel on répertorie tous les lieux de randonnée pédestre au niveau du Québec.
Mm-hmm.
Puis sur ce site-là, on va vous indiquer, par exemple, les endroits où il y a des baignades. Donc, ça peut être intéressant de partir faire une randonnée et de prévoir un lieu pour arrêter, un lieu de baignade. Il y a également des sentiers qui vont avoir de l'interprétation en cours de route. Donc, ça peut être vraiment intéressant de faire ça.
Oui, on le sait, les enfants sont souvent fascinés par les insectes, les petits animaux, les fleurs, les plantes. Donc, on peut même créer une petite chasse au trésor, là, quelque chose d'hyper ludique pour eux.
Exactement. Mais en fait, il y a quelque chose qui est très, très populaire. Il y en a beaucoup d'activités, mais une qu'on connaît beaucoup, c'est le geocaching, dans le fond, qui consiste vraiment à aller dans le sentier et de trouver une espèce de chasse au trésor. C'est très bien organisé. C'est important, par exemple, d'aller faire du geocaching dans des endroits où la cache va être proche du sentier. Mm-hmm. Parce qu'il y a des endroits que c'est plus difficile, mais sur les sites de geocaching, vous allez avoir un niveau de difficulté, ce qui va vous permettre vraiment de trouver une activité appropriée. L'autre chose aussi, pour les enfants, qui est vraiment importante, c'est de les intégrer dans la randonnée. Mm-hmm. Vous les intégrez dans la planification, vous les intégrez également quand vous allez faire de la randonnée. Allez leur acheter un sac à dos, achetez-leur leur bouteille d'eau. Ils vont être fiers de porter leurs choses, porter leur bouteille d'eau. Quand ils ont soif, ils peuvent prendre eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de toujours de demander. Et ça, je dirais, peu importe l'âge. Là, dès le jeune âge, il faut les intégrer, ils vont être très fiers de ça. C'est important vraiment qu'ils sentent qu'ils ont accompli quelque chose. On peut prendre des photos aussi.
Oui, c'est un très, très bon truc, ça.
Donc, vraiment, souvent, les gens vont dire... L'adulte va partir avec le sac à dos, puis les enfants partent avec rien. Mais pour vraiment qu'ils comprennent c'est quoi, bien, c'est important. On s'entend, là, on ne charge pas le sac à dos super lourd. Oui. Mais juste quelques petites affaires, sa petite collation.
Faire une habitude de vie, parce que la marche peut faire partie d'habitudes, de saines habitudes de vie, et ça se pratique tous les jours. Là, on parle aujourd'hui, bien sûr, de randonnée pédestre en montagne, mais ça peut s'inclure comme exercice très, très accessible là, dans notre quotidien.
Exactement.
On a parlé de sac à dos, Pascal. Oui. On met quoi? C'est quoi les musts, là?
Bon, les musts dans un sac à dos, c'est sûr que c'est important d'avoir un sac. Il faut toujours prévoir dans notre sac de garder toujours un petit peu d'espace. Moi, c'est le premier conseil que je dis. Il ne faut jamais partir notre sac à dos plein parce que des fois, on enlève des couches, des fois, on remet des couches. Donc, de se garder un petit peu d'espace. Mais il ne faut pas partir non plus avec un trop gros sac à dos. Il faut s'adapter en fonction de la randonnée qu'on va faire. Donc, si on a une courte randonnée, on va partir avec un sac à dos plus petit. Ce qui est essentiel, une bouteille d'eau, toujours, il faut amener de l'eau. Vous allez voir, c'est ce qui va faire la grosse différence entre une randonnée qui va être agréable, une randonnée qui, à partir de la moitié ou de la fin, si vous manquez d'eau, vous allez trouver ça vraiment plus difficile. Ensuite, on conseille toujours, ça peut être une trousse de premiers soins, d'en amener mm-hmm. une, mais appropriée à fonction de la randonnée. Vous n'allez pas partir avec votre grosse trousse de premiers soins. Si vous êtes deux, vous partez 2 heures, par exemple. Dans la trousse de premiers soins, moi, ce que je trouve surtout intéressant, on va parler de tout ce qui est pour les ampoules. Il y a des différents produits qui existent pour protéger des ampoules. Donc ça, c'est un outil qui est important parce que si vous partez, par exemple, sur une randonnée de 1 heure, 2 heures, puis qu'en cours de route, pour une raison X, vous avez le pied plus humide ou quoi que ce soit, vous avez changé de paire de bas, une nouvelle chaussure, vous faites une ampoule, mais avec les produits qui existent, vous êtes capable de venir régler le problème puis de continuer à faire de votre randonnée sans que ça soit désagréable. On va également parler d'une lampe frontale. La lampe frontale, moi, je la tiens toujours dans mon sac à dos parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours être pratique. Donc, je la cache dans le fond de mon sac à dos. Et à ce moment-là, si jamais on se fait avoir par la noirceur parce qu'on part un petit peu plus loin ou quoi que ce soit, bien, là, à ce moment-là, on est capable de trouver, de retrouver notre chemin avec notre lampe frontale. Donc, c'est des choses qu'on va toujours vouloir traîner avec nous. Et ensuite, bon, comme je disais tantôt, il faut s'adapter à la météo. Donc, on prévoit les vêtements de rechange en conséquence, se garder de la place pour tenir.
Et Pascal, en terminant, bon, je sais, vous devez être un fan de randonnée pédestre, mais quels sont vos trucs, en fait, pour les lieux, vos lieux préférés, là?
Bien, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on a le site baliseqc.ca qui est vraiment le répertoire. On a tous les lieux de marche. Sinon, à la Fédération québécoise de la marche, on a des réseaux qui sont certifiés dans lesquels on s'assure qu'il y a une qualité, que le réseau va être vraiment agréable. Les parcs nature à Montréal, c'est vraiment très intéressant. Et en terminant, je vous dirais, les parcs régionaux et dans la région de Montréal, pour les familles, les îles de Boucherville, c'est vraiment, vraiment bien.
Pascal Boulay-Coton, merci pour ces précieux conseils. On mettra le site de la Fédération québécoise de la marche sur notre site.
Merci.
Rémière Monza, la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien d'ici là. Bye-bye.